RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Julien Gessler.
Bonjour Mathieu.
Comment allez-vous?
Très bien et vous?
Ça va super bien, vous me recevez ici, c'est une antre. Hein.
Dans mon antre, oui, ma petite caverne.
Nous sommes ici au, j'ai envie de dire, fameux restaurant Léa Linster, et j'ai le plaisir d'être reçu ici dans votre cave, dans le cadre de ce podcast La Route des Vins du Luxembourg. J'ai déjà envie de parler de vous, Julien. J'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes tombé dans le milieu du vin. C'était quelque chose de prédestiné pour vous ou ça arrivait un petit peu par hasard?
Mais c'est pas forcément prédestiné, on va dire que ça se fait des fois tout seul, c'est pas programmé. J'avais simplement un papa qui avait tout simplement une jolie cave à vin, on va dire, avec quelques jolis vins. Et le vin, ça ne m'intéressait pas plus que ça jusqu'à mes 15 ans, l'anniversaire de mes 16 ans, où là mon père m'a dit « Bon écoute, d'habitude, je ne te fais jamais goûter de vin, mais là aujourd'hui c'est ton anniversaire, j'avais acheté des bouteilles de ton année de naissance, donc là maintenant je vais te faire goûter quelque chose de très bien, il faut absolument que tu goûtes ça. » Et c'était effectivement un Gevrey Chambertin du domaine d'Arduis, millésimé 95. Et à ce moment-là, je me suis dit « Waouh, effectivement, il y a quelque chose. » C'était vraiment une explosion de parfums, quelque chose de très confituré, riche, souple. Enfin, c'était la première fois que je prenais vraiment le plaisir avec un vin. Et si je devais donner un point de départ, je pense que ce serait un petit peu là.
À cet âge de l'adolescence, est-ce qu'on se dit déjà que le vin peut être un vrai métier?
Alors non, pas du tout, parce que je dirais qu'on, quand on n'est pas dans une famille qui baigne dans ça, on ne met pas forcément trop ça en avant, je veux dire, par les amis ou les connaissances. Donc il faut vraiment connaître quelqu'un qui, entre guillemets, vous transmet cette passion. Parce que sinon, oui, ou alors il faut la découvrir soi-même, tout simplement. J'ai décidé de faire un bac pro donc, dans l'hôtellerie, en commercialisation. Je suis rentré dedans et après, j'ai switché sur une année de mention sommellerie au lycée Raymond Bonneau-Rames.
D'accord, hein, donc vous êtes français à la base, vous avez passé la frontière hein, comme beaucoup de Lorrains. Vous êtes Lorrain d'origine?
Je suis Lorrain d'origine, ouais, un petit village dans la Moselle, pas très près de Metz, on va dire un tout petit peu plus loin. Mais effectivement, je me suis perdu par la suite au Luxembourg, mais avant cela, j'ai fait plusieurs années en tant que sommelier en Alsace. Après, c'est toujours pareil, on fait son petit bonhomme de chemin de son côté, et puis en fait, le hasard fait bien les choses, et puis un jour, on se retrouve dans cette fameuse maison où on a eu écho par ça, et on s'est dit, maintenant, ça y est, j'y suis.
Alors, départ de Metz, petit passage par l'Alsace, hein, vous êtes aujourd'hui au sein de cette grande maison. Vous êtes donc responsable du vin dans ce restaurant. Être responsable du vin, finalement, c'est quoi? C'est responsable du service uniquement? Ou on va aussi essayer de débusquer des petits producteurs, des choses comme ça? Parlez-nous un peu de ce métier au quotidien.
Écoutez, c'est une juste balance, j'ai envie de dire, parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Quand vous avez une clientèle qui est des fois étrangère, donc surtout du côté de l'Allemagne, vu que Madame Léa Linster, la maman de Louis, avait fait beaucoup sa publicité, sa promotion de ce côté-là, il faut des vins justement locaux, régionaux. Et effectivement, on a la chance d'avoir un vignoble qui est tout près d'ici. Je veux dire, vous roulez une demi-heure, vous y êtes, donc pour un sommelier, c'est génial. Puis j'ai envie de dire, vu que j'ai été sommelier en Alsace, je retrouve tous les cépages qui m'ont beaucoup plu à l'époque sur un autre terroir, ce qui est très intéressant en fait.
Alors ces vins, vous avez donc l'occasion de les proposer dans le cadre des plats qui sont concoctés par le chef Louis Linster. Est-ce qu'on peut parler de la cuisine hein, qui est un petit peu pratiquée par ce chef?
La cuisine du chef, c'est un petit peu la cuisine que je me faisais vraiment de l'étoilé. C'est vraiment des produits d'exception, que ça soit le homard, que ça soit le wagyu, que ça soit la caille, du pigeon ou d'autres mets vraiment très fins, l'utilisation de la truffe. Mais le tout, justement, accompagné de cette touche asiatique qui fait vraiment la différence et je trouve ce qui fait l'identité de la maison, qui le chef effectivement est très intéressé par ça et je trouve qu'il rehausse effectivement toute cette cuisine et qui lui donne en fait une toute autre saveur.
On a justement la chance hein, aujourd'hui de se situer dans cette cave et de voir un petit peu les différents breuvages hein, que vous proposez à votre clientèle. On fait un petit tour, bon il y a plusieurs centaines de bouteilles, on va pas pouvoir y passer des heures.
Ah mais, oui, on va pas refaire l'inventaire une deuxième fois.
Exactement, mais on va faire la visite ensemble. Allez, je vous laisse me guider un petit
bien
peu
sûr.
Dans les grandes lignes.
La première partie de la cave avec beaucoup les vins luxembourgeois. Donc on part du sud au nord de la Moselle, on peut se débuter avec des domaines comme par exemple Henri Rupert qui est à Schengen, je pense très connu pour les luxembourgeois et pour ceux qui aiment la gastronomie dans le pays. Et on monte effectivement plus au nord jusqu'à aller justement avec les vins de Château Porquet. Par exemple à Grevenmacher, celui de chez Monsieur Abitur.
Ouais. Tiens, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au Luxembourg, on est sur deux sols assez typiques. Hein. On n'a pas le même sol à Grevenmacher qu'à Schengen, hein, pour le coup. Ça vous laisse l'occasion pour vous de pouvoir proposer des vins luxembourgeois qui sont complémentaires finalement et assez différents.
Effectivement, quand on prend un Riesling, que ce soit dans le sud avec un Fels Kreuzberg et par exemple jusqu'au nord où on fait 30 km près du village de Hahn par exemple avec un cru du Palmberg, on va pas se retrouver avec un Riesling avec la même typicité. On va avoir d'un côté, on va dire au sud, avec un Riesling un petit peu plus rembouche, un petit peu plus gras, effectivement plus de volume, des fruits un petit peu plus mûrs. Et dès qu'on va aller dans le nord, justement avec les terroirs comme le Paltrow, avec des Riesling effectivement très droits, très tranchés, très ciselés, côté pierre à fusil, vraiment ce citron qui attaque, enfin... On peut jouer sur plein d'aspects là-dessus.
Allez, on continue.
Bah là, on va être effectivement sur la deuxième partie, la partie effectivement que nos clients apprécieront certainement le plus,
ouais. Hein,
que ce soit de n'importe quel côté de la frontière, hein, français, luxembourgeois, allemand et j'en passe. On est effectivement sur la Bourgogne, donc tout un étage avec uniquement ça, jusqu'à les appellations Chablis, sur les Pouilly Mauraché, Chassagne Mauraché, effectivement, et également jusqu'au Grand Cru, les Bâtards Mauraché, des Cortons Charlemagne. Enfin, je pourrais vous faire toute la liste, elle est assez longue.
Je vois que vous prenez grand soin à emballer hein, ces différentes bouteilles dans du papier film, j'imagine pour conserver l'étiquette telle qu'elle.
Effectivement, quand on paye un certain prix pour une bouteille comme ça, c'est un petit peu des petits trésors, donc c'est normal de les conserver au maximum, surtout que des fois on peut être sur des vieux millésimes, donc eh bien, le temps fait son effet justement, et le fait de ne plus pouvoir lire un millésime précisément serait bête pour mon client.
Ça gâche un petit peu l'expérience, hein, comme
exactement.
On dit. Hein.
Ouais.
C'est pas un labyrinthe, hein, c'est vraiment c'est un trésor organisé. Hein.
Exactement, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Ouais.
On aura de tout, effectivement, ça peut continuer sur des Val-de-Loire, sur des Sancerre en blanc, des Savenières. Et on ira sur les rouges, sur les Saumur Champigny par exemple, jusqu'à des régions un petit peu plus méconnues, on va dire, du grand public, sur par exemple des appellations comme Jura, Côte du Jura, Château Chalon.
Ah tiens, Côte du Jura, c'est un vin qu'on n'a jamais l'occasion d'aborder dans le cadre de ce podcast. Quelles vont être les particularités d'un tel vin? On va retrouver des similitudes avec des vins de Savoie ou rien à voir?
Eh bien, tout dépend sur quel type de vin vous allez vous baser, car en fait, dans la région du Jura, on a deux types d'écoles, si je puis dire, les vins typés et non typés. Les vins non typés, ce sera des vins, on va dire, qui ont bénéficié d'une vinification de tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça veut dire que si vous faites un chardonnay dans le Jura, eh bien, vous ne serez pas très éloigné de la Bourgogne. Ce sera un petit peu différent, mais on va rester sur des vins, on va dire, ce qu'il y a classique. Par contre, sur les vins typés, là, on va surtout jouer sur le cépage roi phare du Jura, qui est le Savagnin. Et là, par contre, on va avoir effectivement ce fameux goût oxydatif très porté sur la noix qui rappelle beaucoup ben justement le vin jaune. Toujours différentes régions abordées comme le Languedoc-Roussillon par exemple, ou le sud-ouest, sur des appellations comme des Corbières, jusqu'à des vieux Rivesaltes aussi, de 83, de 55.
Ouais.
Ce qui est vraiment très beau avec Luxembourg, c'est cette diversité justement de clientèle qu'on a. Vu qu'on a de tout et que c'est très cosmopolite, en fait, chaque type de client ou de nationalité va demander autre chose. On a un joli éventail de vins allemands qui est autant demandé par les Luxembourgeois que par les Allemands. Les Allemands, on va dire, déjà quand ils viennent chez nous, ils préfèrent effectivement boire plus de local. Donc en général, ce qui est très drôle, c'est que eux, même s'ils ont une belle carte de vin allemand, vont boire du luxembourgeois. Mais les luxembourgeois qui viennent chez nous vont plus des fois se porter sur certains Riesling allemands.
Tiens, je vois qu'on a des jolies bouteilles de Saint-Joseph là. Hein.
Des jolis domaines très demandés par beaucoup de connaisseurs, notamment Jean-Louis Chave. Également des grandes maisons plus connues du grand public comme Chapoutier, des beaux producteurs comme Stéphane Montez. Et jusqu'au Grand Cru de la Vallée du Rhône avec des côtes rôties comme la Landonne et la Mouline.
Allez, tiens, je vais vous poser une petite question technique. Comment est-ce qu'ils évoluent vraiment ces vins? Là, on voit des Saint-Joseph donc, qui ont une petite dizaine d'années, d'autres sont bien plus vieux. Qu'est-ce qu'on va retrouver en fait en termes de saveur sur un Saint-Joseph qui va avoir déjà plus de 20 ans, voire même 25 ans?
Eh bien, écoutez, tout dépend du terroir parce que l'appellation reste assez grande, mais en général, on tombe sur des vins assez riches vu qu'on est des fois sur des belles bases de Syrah. On est vraiment sur le côté poivré, un petit peu du thym, d'autres épices qui vont ressortir. Quand ça vieillit, effectivement, on peut tirer sur des notes un peu plus animales, un peu plus sur le cuir. C'est très diversifié comme arôme qu'on peut retrouver.
D'accord, très bien.
Le bordelais. Et vraiment là, j'ai un chef qui a très bien étoffé cette carte avec tous les grands noms. On va dire ces fameux vins de légende qu'on apprend dans les livres de cours quand on commence la sommellerie.
Ah oui.
Et qui sont tous présents ici. De Mouton Rothschild jusqu'à des Montrose, des Châteaux Margaux. Voilà, il y a vraiment tous les vins qui font rêver, je pense, un sommelier dans sa carrière qu'on espérerait ouvrir et goûter.
Très beau millésime Saint-Estèphe également. Le Bordeaux, quoi qu'on en dise, même s'il a parfois été critiqué ces dernières années, ça reste le pilier, selon vous, du vin français.
Avec la Bourgogne, le Bordelais, pour moi, c'est deux grandes régions pour lesquelles, des fois, on rentre dans la sommellerie ou où on s'intéresse. Ça reste des vins vraiment exceptionnels, un vieillissement incroyable. Je veux dire, quand on peut se faire plaisir avec des vins qui ont 20 ans, 30 ans d'âge et qui sont encore superbement puissants, frais, en même temps élégants, on ne peut que respecter cette région justement.
J'ai eu l'occasion d'échanger là récemment avec Daniel Mouty, qui est le président des vignerons indépendants de Nouvelle-Aquitaine, qui me dit qu'il y a eu des gros efforts de fait au niveau du Bordelais pour rendre ces vins buvables bien plus rapidement qu'avant. Par le passé, c'est vrai que souvent on attendait une dizaine d'années avant d'ouvrir une caisse de Bordeaux. Lui, il estime que par les moyens de vinification qu'on détient aujourd'hui, on arrive à des résultats plus rapides. Vous qui avez l'occasion d'ouvrir ces bouteilles aussi, ces millésimes un peu plus jeunes, vous en pensez quoi honnêtement?
Alors je pense effectivement que les vinifications ont bien changé par rapport à celles d'il y a 20 ans ou 30 ans, ça c'est indéniable. On est sur des vins qui sont plus vite prêts à boire. Tout dépend justement après de comment le vigneron va travailler. Mais en attendant, on a des vins qui peuvent se boire beaucoup plus jeunes effectivement. Mais je reste dans l'idée qu'il faudrait quand même rester sur 5 ans minimum pour goûter justement pleinement un vin à pleine maturité. Pour moi, 5 ans reste le minimum pour un vin du Bordeaux.
D'accord, d'accord. Donc là, on continue cette cave et puis on va se rediriger tout doucement vers notre petite table où vous m'avez préparé deux bouteilles de prédilection. En attendant de rejoindre cette table, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on se comporte avec un vin? On voit vraiment des bouteilles qui sont assez anciennes. On peut imaginer des vins qui sont délicats, ce qu'on peut dire fragile peut-être au niveau du bouchon. J'imagine que pour vous c'est toujours une épreuve hein, à un moment donné d'ouvrir un grand cru, faut pas se louper.
Ah, effectivement, il vaut mieux pas se louper, effectivement. Ça fait partie des joies et des aléas et du stress du service, effectivement, qu'on est content d'avoir des fois de belles commandes. Mais quand on voit certains vins avec des vieilles années, on se dit, effectivement, il faut pas se louper. Mais avec le temps, on apprend à avoir une certaine normalité de la chose et ça devient, on va dire, plus instinctif. D'accord. Je veux dire, c'est surtout les débuts qui sont les plus compliqués, je pense.
J'imagine que vous décantez aussi ces vins-là, ça vous arrive?
Je décante des vins, qu'ils soient des fois plus jeunes ou qu'ils soient plus vieux, justement. Plus vieux, des fois, pour effectivement éliminer le dépôt qu'il y a au fond. Et justement, des fois, prévoir une certaine ouverture. Et effectivement, des vins plus jeunes également pour une aération plus accélérée. Un des meilleurs sommeliers du monde, Paolo Basso, qui est d'origine brésilienne, me semble-t-il, qui a bien résumé la chose au niveau du vin. Et il a dit, les vins, c'est comme les personnes, en fait. Plus il est jeune, plus vous pouvez le brusquer. Plus il est vieux, plus il faut y aller doucement.
C'est ce que me disait aussi un ancien maître de sommellerie. Lorsque les vins sont jeunes, on leur botte un petit peu les fesses. Un peu ça.
Oui, dit crûment, c'est ça.
Très bien, très bien. En tout cas, cave très très fournie, très très intéressante.
On a aussi un joli choix, effectivement, de digestif. On pourra avoir de tout. Hein. On passe évidemment par du local avec Maison Zener pour certains schnapps, sur les fruits comme la mirabelle, la couèche, la framboise, enfin les grands classiques. Et après, effectivement, on peut continuer sur un petit peu les classiques, j'ai envie de dire, digestif français, que ce soit du Calvados, du Cognac, de l'Armagnac et tant d'autres.
Bon, allez, on retourne à notre sélection. Donc là, on voit, on a deux bouteilles de vin, les vins que vous avez envie de faire découvrir à nos auditeurs. J'imagine qu'on est sur des vins qui sont plutôt coup de cœur. Est-ce qu'on peut parler de ce premier vin?
Pas de problème. Alors moi, pour ma part, j'ai choisi ces deux vins car je suis un grand amateur de Riesling. Donc on va partir sur un Riesling. On va partir sur un joli domaine qui se situe un petit peu au sud de la Moselle luxembourgeoise, au village de Wellenstein, sur le domaine René Benz, sur le Riesling Krubermacher Koteskopf en millésimé 2021. Voilà, on est sur un joli vin qui a pu subir un élevage en foudre, en barrique, également de 10 mois minimum, me semble-t-il. Millésime 21, un millésime que je n'ai pas, on va dire, apprécié au premier abord, parce que c'est un millésime un petit peu compliqué, un petit peu plus vieux, on va dire, fin août, on va dire, on a eu beaucoup de pluie justement sur ça, donc ça a eu quelques problèmes au niveau des vignerons, mais ce vigneron-là, je trouve, a fait un joli Riesling comme j'aime justement, avec beaucoup de tension, ce côté légèrement pétrolé, cette vivacité et cette belle fraîcheur que j'attends justement d'un Riesling.
Très intéressant ce que vous dites, hein, Julien Gessler, hein, ne pas se fier qu'aux années, puisque toutes les années ne font pas que des bons vins, mais parfois on arrive à dénicher de belles pépites comme ça sur des années qui ne sont pas réputées comme étant les meilleures. Hein.
Exactement, c'est ça la force, je trouve, d'un vigneron, de même justement d'un bon vigneron, même dans une année qui est compliquée, une année qui se dit mauvaise, de réussir à faire quelque chose de beau. Justement, c'est ça la force du travail de l'artisan,
l'agriculteur. Ouais, les vins, ce sont les sols aussi, hein, disons-le, les sols, l'exposition. Hein, vous parliez du Palmberg hein, tout à l'heure, qui est vraiment une superbe exposition au Luxembourg. Hein, ouais. Ça joue également. On a un autre vin là qui... Ah, je connais aussi, Domaine Clos des Rochers.
Oui, Domaine Clos des Rochers, je pense effectivement que la clientèle luxembourgeoise est bien informée sur ce vin-là. Détenu par le groupe Bernard Massard, mais un domaine que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est l'un des domaines, on va dire, les plus qualitatifs, je pense, et un des plus rigoureux au niveau du travail de la vigne. Et que ça soit sur des Riesling, des Pinot Gris ou juste des Pinot Blancs, ça fait vraiment quelque chose de très droit, très frais et effectivement des vins qu'on peut garder quelques années sans aucun problème.
L'un comme l'autre, vous aimeriez les déguster avec quel type de plat ?
Justement, un type de produit, on va dire, que mon chef aime beaucoup travailler, c'est la matchi en général, ce maquereau poisson cru. Et j'aime beaucoup justement ce type de vin, surtout les Riesling très droits, très tranchés. Je trouve que c'est ce qui va le mieux avec ce côté effectivement asiatique. Surtout que souvent mon chef agrémente ça avec des, on va dire, des huiles qui jouent sur le citron vert, comme le ponzu par exemple. Sa sensation là sur le côté citronné avec cette fraîcheur du Riesling, c'est juste pour moi parfait.
J'aimerais qu'on termine ce podcast avec un conseil sur un vin qu'on pourrait accommoder avec un dessert. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'aborder. Est-ce que vous avez l'habitude de conseiller des vins qui sont vraiment propres au dessert, qui sont proposés par le chef Louis Linster ?
Jouer sur un Riesling cabinet allemand, donc on va dire avec un peu plus de sucre résiduel car on garde ce côté frais. J'aime également conseiller, si on va sur le côté luxembourgeois, on revient chez nous, par exemple sur le cépage Muscat, un Muscat Autonel, par exemple de la domaine Dunen-Hoffmann. Très agréable si on veut chercher ce côté léger, ce côté pêche, ce côté croquant sur le raisin. Par exemple sur une belle crème brûlée, si on veut partir sur un dessert des plus classiques, ça pourrait être parfait dessus.
J'ai l'impression que dans les deux vins là dont vous me parlez, il y en a un qui va être un peu plus tranchant et un autre qui va être complémentaire. C'est comme ça en général que vous apportez vraiment vos conseils aux clients. Vous avez demandé aux clients si vous voulez un vin qui se mêle parfaitement ou au contraire qui va apporter autre chose.
J'ai tout type de clientèle, donc j'ai tout type de demandes. J'ai des gens vraiment qui sont très joueurs, qui se laissent faire, qui disent vraiment écoutez, je suis toute votre sélection jusque là, je vous fais entièrement confiance. Donc ça c'est déjà souvent pari gagné, ça fait toujours plaisir pour un sommelier de voir que c'est propositions aboutissent, réussissent. Et puis il y a d'autres clientèles qui font, on va dire, un petit peu plus compliqué, on va dire, à amener sur un vin de dessert, parce qu'on a toujours cette image de quelque chose qui va être saturé par le sucre, effectivement, qui n'est pas très élégant. Et ça aussi, c'est un travail compliqué, je pense, pour un sommelier de pouvoir continuer à proposer des vins de dessert, mais tout en restant sur l'élégance, en donnant envie aux gens, justement. Car les gens ont malheureusement cette image du vin style vendange tardive ou alors sur le sauterne qui va être très lourd, très riche en sucre, qui va un petit peu être bourratif, on va dire, à la fin d'un repas. Trouver un vin qui marie justement la sucrosité et en même temps l'élégance, ça peut être très compliqué.
Et on a des vins par exemple comme les Jurançons qui ont ce côté sucré mais qui apportent de l'acidité, ce qui permet de conserver de la fraîcheur aussi au niveau de la dégustation. J'imagine que les clients peuvent être surpris parfois par ces vins, j'ai envie de dire, qui font presque des miracles, qui de prime abord sont sucrés, mais grâce à l'acidité rendent honneur au dessert aussi.
Exactement. Et puis effectivement il y a une autre facette aussi à prendre sur ces vins, c'est justement de les prendre plus vieux. Car ces vins sont déjà très intéressants lorsqu'ils sont jeunes, mais quand ils vieillissent, ils développent des arômes juste incroyables. Donc c'est pour ça que moi, pour ma part, même pour mon achat personnel, quand j'achète ce type de vin, que ce soit des Coteaux du Lion, des Sauternes, ce genre de choses, j'adore les acheter minimum avec 20 ans d'âge, parce que je trouve effectivement que là, le vin révèle une apothéose de saveur juste incroyable. On n'a presque rien à voir avec les arômes du vin dans ses premières années.
Julien Gessler, merci beaucoup pour cette présentation. Vous nous avez fait rêver. Aujourd'hui, vous êtes sommelier, je le rappelle, de cette maison, Léa Linster, ici à Frisange, au Luxembourg. Je vous dis à très bientôt sur la route des vins du Luxembourg.
Merci beaucoup Mathieu.
Au revoir.
Au revoir.
La route des vins du Luxembourg.